LBD. La base décide. La base définit.
Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Un podcast sera diffusé chaque jour jusqu'au 8 mars. Bruno et moi recevons aujourd'hui deux militantes de Sud qui viennent nous parler des violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Bonjour à toutes les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Salut, je suis Lucie, je milite à Sud Éducation 28 et je suis professeure documentaliste.
Bonjour, je suis Camille, je suis à Sud Éducation Gare Lozère et je suis professeure de français.
Merci à toutes les deux d'être venues. Alors la première chose que j'aimerais vous demander, c'est qu'appelle-t-on en réalité les violences sexistes et sexuelles au travail ? Qu'est-ce que ça recoupe ?
Les violences sexistes et sexuelles au travail, elles peuvent être de différents ordres. En fait, comme dans l'ensemble de la société, le milieu du travail n'est pas isolé du reste de la société. Et donc, en fait, on peut voir qu'il y a une sorte de pyramide d'escalade dans le type de violence qu'on peut voir au travail. Donc, avec des agissements sexistes qui sont interdits par le Code du travail. Ça peut être des blagues entre guillemets. En fait, ce sont des propos injurieux, discriminatoires, insultants. Voilà, des réflexions dégradantes. Ça peut aussi prendre la forme de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, voire de viol, de crime.
Merci Lucie pour cette présentation. Une question en complément par rapport à ce que tu viens d'exposer. Est-ce bien ça qu'on appelle le continuum de la violence ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, là-dessus ?
Oui, c'est ce qu'on peut appeler le continuum de la violence. Alors, il y a un certain nombre de féministes qui l'ont bien mis en évidence. C'est-à-dire que, en fait, va y avoir à la base de cette pyramide les actes les plus communs qu'on va banaliser. Donc ça va être, ce que je disais tout à l'heure, les remarques sexistes, ce que les gens présentent parfois comme des blagues alors que ça n'en sont pas, c'est insultant. Et puis qui va permettre, en fait, ça va créer un environnement qui va permettre du harcèlement, donc du harcèlement sexiste, voire du harcèlement sexuel. Des agressions. Donc, dans le droit français, les agressions sexuelles, elles sont définies comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout en haut de cette pyramide, il y a les crimes. Donc, le viol, dans le droit français, le viol est considéré comme un crime.
Si une collègue vient nous voir dans une de nos permanences et qu'elle nous confie que sur son lieu de travail, elle subit des choses qui relèvent du harcèlement sexiste ou sexuel, quelles sont les premières choses à faire ? Et en tant qu'organisation syndicale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner au mieux la personne qui vient nous solliciter ?
Alors, ce qui est très important, c'est de créer tout d'abord un espace d'écoute pour la personne qui vient nous voir, qui vient se confier à nous, que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre établissement ou au local syndical. Il est nécessaire d'attendre le bon moment et de trouver le lieu adéquat, c'est-à-dire pour créer un espace sécurisé et où la personne se sente en confiance et donc où il y a une certaine forme de confidentialité aussi. Il est très important quand on écoute ce qu'elle a à nous dire, de noter les différents éléments pour ensuite pouvoir avoir une chronologie des différents événements qui se sont produits. Il est très important aussi d'inverser les mécanismes de la violence, c'est-à-dire de commencer par préciser à la victime qu'on la croit, bien évidemment, valoriser le fait qu'elle a eu le courage de venir en parler à quelqu'un, la déculpabiliser, bien lui rappeler qu'elle n'y est pour rien, qu'elle n'a rien fait, que c'est l'agresseur qui est fautif, bien entendu. Il est important aussi de lui rappeler la loi, de lui indiquer quelles sont les démarches légales possibles Mais nous, notre travail, ça va être surtout de proposer une aide au niveau syndical. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas médecins non plus. Donc on peut l'orienter vers des associations, par exemple la VFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Et donc ne pas hésiter à lui conseiller d'aller consulter son médecin, d'aller rencontrer un psychologue pour parler de ce qui lui est arrivé. Nous, notre accompagnement syndical, il va surtout consister à conseiller la victime sur les démarches administratives qui sont possibles au sein de l'éducation nationale. Dans tous les cas, c'est à la personne qui vient nous voir de décider par elle-même ce qu'elle veut faire pour elle-même. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire. Nous, on lui présente les options qui s'offrent à elle et c'est elle qui décide.
D'accord, donc attendre que la personne et la victime se sentent prêtes pour entreprendre ensuite une série de démarches. Est-ce que vous pouvez nous présenter les démarches justement qui peuvent s'opérer, être mises en place à l'intérieur de l'établissement ou à l'intérieur de l'école?
Oui, alors je voudrais d'abord préciser qu'en fait, il y a une démarche donc, syndicale administrative, un parcours administratif, et puis il y a des démarches qui peuvent être judiciaires, etc. En tout cas, ce sont des démarches qui peuvent être effectuées en parallèle, mais qui ne sont pas... par exemple, en fait, je dis ça parce que dans l'éducation nationale, la hiérarchie fait souvent croire qu'il y a besoin de démarches judiciaires pour qu'elle agisse. C'est faux. En fait, les démarches administratives peuvent se suffire à elles-mêmes. Dans les démarches administratives, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, le représentant de l'État, donc c'est-à-dire le chef d'établissement ou la chef d'établissement dans le second degré et l'IEN dans le premier degré, ils sont tenus d'assurer la sécurité des personnes. C'est une obligation. Ils ont l'obligation de protection des personnels. Donc, pour être protégé, ce qu'on va nous conseiller, c'est de signaler les dangers. Donc, en remplissant le registre santé et sécurité au travail ou le registre danger grave et imminent. Donc, ça va permettre d'alerter le comité hygiène, santé et sécurité. Ça peut être de demander une protection fonctionnelle. Enfin, en tout cas, il n'y a pas... un seul chemin à suivre, voilà, ça dépend de la situation, de ce que veut la collègue. Voilà, on part d'une situation donnée, mais en tout cas, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Ce qu'il faut noter, c'est que la hiérarchie, très souvent, elle va minimiser les faits et elle va laisser traîner les affaires, voire les mettre sur le tapis. Camille en parlait tout à l'heure, d'établir un récit factuel. C'est vraiment une pierre angulaire dans l'accompagnement, parce que ça va être aussi là-dessus, notamment, qu'on va pouvoir... Enfin, c'est ce qu'on va utiliser pour maintenir un rapport de force.
Diriez-vous que l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail dans l'éducation nationale, elle est au point où on est en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire pour traiter les situations dans l'intérêt des personnels qui les subissent?
Bah alors on est largement en retard, et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'éducation nationale n'applique pas une circulaire existante, la circulaire du 9 mars 2018. Donc c'est une circulaire qui est en vigueur. Donc elle prévoit en fait dans toutes les écoles et dans tous les établissements des dispositifs d'information. On est loin d'être à de l'info dans chaque école et chaque bahut. Elle prévoit la formation initiale et continue des collègues, bon c'est pareil, et elle prévoit la prise en charge des signalements de violence, notamment par la mise en place de cellules dans chaque académie, des dispositifs en fait de signalement et de traitement de ces violences. Voilà, on est en 2021 et il y en a 4 sur tout le territoire. Donc autant dire que c'est vraiment très peu, d'autant que, c'est pas uniquement dans l'éducation nationale, mais ce qu'on peut... Les chiffres du Défenseur des droits font état de 20% de femmes qui estiment être confrontées à du harcèlement sexuel au travail. L'éducation nationale se voit de la face en disant, elle, dans le bilan social qui vient de sortir en décembre dernier, que seulement 0,2% des personnels sont victimes de ce genre de violence.
Oui, ces chiffres sont vraiment édifiants quand on les met en perspective par rapport à ce que vous devez, vous, entendre dans vos accompagnements syndicaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et surtout, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est victime de violences sexistes ou sexuelles au travail, ou que vous-même êtes victime de cela, n'hésitez pas à contacter votre cellule syndicale locale ou d'appeler un syndicat pour être accompagné au mieux.
C'était le deuxième numéro LBD de la semaine consacré au 8 mars. Rendez-vous demain pour la question de droit dédiée au harcèlement sexuel au travail. Et d'ici là...